Mémoire d'un jeune homme rangé, chapitre 7. Intermède. Mardi. Plus qu'un seul jour avant de revoir Berthe. Il semblait à Daniel qu'il ne pourrait se présenter chez les Voreaux le lendemain sans renouveler complètement sa garde-robe et son linge de corps. À la rigueur, il garderait sa jaquette grise, à peu près neuve, mais il lui fallait une chemise qui eût un col plus haut et des manchettes non éraillées. S'il allait se trouver mal chez les parents de Berthe, et si on s'apercevait en le déshabillant qu'il portait des chaussettes reprisées... À vrai dire, il n'a jamais été sujet aux syncopes, et il y a une chance sur 100 000 pour qu'il se trouve mal. Mais c'est sa coutume de s'appliquer ainsi à conjurer des malheurs improbables. Il en oublie d'éviter les précipices les plus immédiats. Il ne se donne pas la peine d'évaluer soigneusement les risques possibles d'une aventure. Il perd un temps infini à se prémunir contre le péril le plus lointain, aussitôt que le hasard de ses pensées le lui fait entrevoir. Quand il va aux courses, il tâche de ne pas regarder le tableau du pari mutuel, car s'il aperçoit le nom d'un cheval qui a réuni peu de mises et qui doit rapporter beaucoup, il se trouve forcé de le jouer, sans croire à sa victoire, mais par peur des reproches qu'il s'adresserait au cas où ce cheval gagnerait sans qu'il eût misé sur sa chance. Il a des principes, acquis au hasard, et auxquels il obéit par crainte plus que par raison, et aussi par paresse, pour n'avoir pas à choisir le meilleur parti en examinant les circonstances. Esclave de certains proverbes, il gâche sa besogne pour ne pas la remettre au lendemain. Il a toujours plusieurs cordes à son arc et les laisse pourrir toutes. Il se trouve plus démuni au moment de s'en servir que ceux qui n'avaient qu'une corde à leur arc et qui l'ont entretenu avec vigilance. À la veille de revoir Berthe, il prend le parti de se recueillir avant cette grande entrevue et de ne pas aller au magasin. Il va trouver sa mère dans sa chambre et lui dit « Je crois que je ferais mieux de ne pas sortir aujourd'hui. J'ai très mal à la gorge. » Il a les amygdales un peu rouges. Il n'aurait pas le courage de mentir complètement. Il reste donc à la maison et après le déjeuner va s'étendre sur son lit, autant pour songer en paix à sa bien-aimée que pour donner plus d'importance à son mal de gorge et qui a laissé son père un peu sceptique. Il pense à la révélation importante que son ami Julius lui a faite la veille. Berthe Voreau en aime un autre. Elle est en flirt avec André Bardot. Il faut que Daniel se remette à l'escrime. Il avait fait des armes à 3 reprises, chez 3 maîtres d'armes différents. Chaque fois, au bout de quelques semaines, il avait quitté la salle, sans prévenir, en abandonnant ses fournitures complètes, vestes, gants, sandales et masques qu'il avait payés en entrant. Il les laissait perdre, n'osant plus revenir à la salle, craignant d'être obligé de donner des explications au maître d'armes et de s'excuser de cet abandon brusque après des leçons si cordiales, terminées par des vermouths qu'il se résignait à offrir joyeusement et se contraignait à boire. Il se décide donc à reprendre des leçons dans une autre salle, bercé de l'illusion qu'il va devenir rapidement très fort, grâce à des dispositions exceptionnelles et surtout à son génie, qui lui permettra d'inventer certains coups spéciaux. Il n'a pas des muscles d'athlète, mais il dit souvent « Je suis très nerveux ». Il se voit allant sur le pré avec André Bardot, et le transperçant dès la première reprise. Puis il essuie son épée toute sanglante sur sa manche gauche et regarde les témoins et la nombreuse assistance, comme pour dire « À qui le tour ?» Il va lui-même chez Berthe Voreau annoncer la blessure mortelle d'André Bardot, avec toute la dignité que comportent d'aussi graves circonstances. La jeune fille se jette en pleurant dans ses bras. Pourquoi Julius prétendait-il qu'elle était maigre? Daniel la revoit dans sa robe de bal, Elle avait les épaules pleines, pas de salière. La ligne de la clavicule soulevait à peine la peau. Ses bras étaient loin d'être grêles, au-dessus des gants très longs qui lui montaient plus haut que le coude, et qu'elle remontait fréquemment sur son bras droit tendu de sa rapide petite main gauche, puis sur son bras gauche de son énergique petit poing droit qui serrait son éventail fermé. L'idée qu'il aurait, près de lui, appuyé sur son épaule, la tête fine et blonde de Berthe Voreau, l'affola. Il sauta de son lit, parcourut sa chambre avec impatience. Il s'assit ensuite à sa table et lut quelques pages de droit. Puis il se leva à nouveau, ouvrit machinalement la porte de la salle à manger. Il aperçut une ouvrière en train de coudre et se souvint que c'était mardi, le jour de Mademoiselle Pie d'Arcé, qui le matin travaillait dans la lingerie et l'après-midi dans la salle à manger où la lumière était meilleure. Daniel vit bien qu'il irait embrasser ce jour-là Mademoiselle Pie d'Arcé et la serrer dans ses bras, comme chaque fois qu'il se trouvait seul avec elle dans l'appartement. Mademoiselle Pie d'Arcé, depuis sa naissance, était âgée de 28 ans. Elle avait de petites frisures noires sur le front, un teint blanc et luisant, des yeux gris et des lèvres minces qu'elle fronçait pour travailler. Pendant une année, Daniel avait tourné autour d'elle. Il venait étudier son droit dans la salle à manger pendant qu'elle s'y trouvait. Elle lisait beaucoup le soir chez elle, était abonnée au « Voleur » et à la « Famille » et à un cabinet de lecture où elle prenait tour à tour, suivant les conseils de l'un ou de l'autre, la « Vénus de Gordes », les « Nuits de Londres » et l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Daniel lui prêta « Cruelle énigme » et « André Cornelis ». Un jour, en la rencontrant dans un couloir, il l'avait embrassée sur la joue. Elle s'était laissée faire. À partir de ce jour, il ne lui adressa plus la parole. Il l'embrassa. Il referme sur lui la porte de la salle à manger, s'approche de l'ouvrière, se tient un instant debout auprès d'elle, regardant l'air comme s'il pensait à autre chose, puis, sans mot dire, il lui touche légèrement les frisures du cou. Mademoiselle Pie d'Arcé écarte ce frôlement d'un doigt rapide comme on écarte une mouche. Alors, se penchant, Daniel l'embrasse sur la nuque. À cet endroit, la peau de Mademoiselle Pie d'Arcé sent un peu le cheveu. Daniel lui dit d'un souffle court « Venez ». La fenêtre est dangereuse, on peut les voir de la cuisine. Il va l'attendre dans un coin plus sombre de la salle à manger, entre la porte et le buffet. Mademoiselle Pie d'Arcé fait quelques points encore, pique soigneusement son aiguille sur son ouvrage, se lève, tapote sa jupe pour en faire tomber des bouts de fil et des morceaux de percale, puis rejoint Daniel, qui l'embrasse longuement et sans bruit sur ses joues fades et dans son cou sans parfum. Ça n'allait jamais plus loin. Il l'embrassait une dernière fois, tendrement, par devoir. Il s'en allait dans sa chambre et Mademoiselle Pie d'Arcé retournait à son ouvrage. La séduction complète de l'ouvrière se fut entourée, selon Daniel, de complications terribles. À cette époque, pour achever la défaite d'une dame, il exigeait un meuble confortable et un appartement situé à une lieue au moins de toute personne de sa famille. Parfois, au moment même où il tenait dans ses bras Mademoiselle Pie d'Arcé, il se promettait bien de se procurer à brève échéance ce logement secret. Malheureusement, le souvenir de Mademoiselle Pie d'Arcé, absente, ne le préoccupait pas assez pour entretenir ses résolutions. Il pensait à elle le mardi quand il se trouvait là. Il allait l'embrasser parce qu'elle était là. Ce petit épisode ne le gênait aucunement dans ses grands projets relatifs à Berthe Voreau. Ça n'avait aucun rapport. C'était un intermède qu'on donnait quand la scène était vide, sans réclame et sans affiche préalable, simplement parce qu'on avait l'artiste sous la main. Chapitre 8. Grande banlieue. Daniel, le lendemain matin, reçut une enveloppe de papier bleu. Elle recouvrait une carte de correspondance où l'on avait écrit ceci, d'une écriture un peu jeune, qui voulait être grande et pointue. « Cher monsieur Daniel, nous sommes depuis 2 jours à la campagne, où nous allons passer 2 semaines pour profiter du beau temps. C'est donc à Bernainvilliers, gare du Nord, qu'il faut venir nous voir aujourd'hui. Venez vers 4 heures, il y a des trains à toutes les 10 heures. Seulement, nous vous garderons à dîner. Vous êtes prévenu et nous n'admettrons qu'une excuse. Je vous serre la main, Berthe Voreau. » Daniel, en complet gris, arriva à la gare à 3h15. Il avait acheté un chapeau de paille et une paire de gants. Il pensa qu'il n'aurait pas trop de tout le trajet pour faire arriver chacun de ses doigts au bout de chacun des doigts de gants. Comme il était installé dans un compartiment de première, il aperçut M. Voreau, le père de Berthe, qui cherchait une place. Daniel, sans savoir pourquoi, fit semblant de ne pas le voir. M. Voreau, dont la barbe grise avait plus d'importance que jamais, alla plus loin, à l'extrémité du train. Daniel, craignant qu'il ne revînt de son côté, descendit du wagon pour flâner devant l'étalage des journaux et des livres, où un employé de la gare, pendant l'absence momentanée de la marchande, surveillait d'un œil insensible les plus récentes floraisons de la littérature française. En tournant les yeux, Daniel aperçut M. Voreau installé dans un compartiment et qui lisait son journal. Il admira à la dérobée sa rude élégance. Il se demanda s'il devait lui dire bonjour, puisqu'il allait chez lui, et qu'il serait bien obligé de lui parler à un moment donné. Et puis M. Voreau pouvait l'avoir vu. Il s'approcha du compartiment, où le banquier continuait sa lecture. « Bonjour, monsieur, » dit-il à voix très basse. M. Voreau ne leva pas le nez. Il était peut-être encore temps de chercher une autre place. Daniel s'éloigna, puis revint délibérément et dit à voix plus haute, « Monsieur, comment allez-vous ? » « Ah, monsieur, » dit M. Voreau, « le fils Henri, je crois. C'est bien vous, jeune homme, qui nous faites l'amitié de venir dîner ce soir. »« Oui, oui, monsieur, » dit Daniel. « Montez donc, » dit M. Voreau, et il lui fit place en retirant sa jambe. « Comment va le papa ? Toujours content de ses bronzes d'art ?»« Tissu, » rectifia doucement Daniel. « Papa est dans les tissus. C'est notre cousin, Frédéric Henri, qui est dans les bronzes d'art. »« Comment ? Alors vous n'êtes pas le fils de Madame Frédéric Henri, que j'ai connue demoiselle ?» et dont le père, M. Hermann, était en Californie ?« Non, non, monsieur, » répond Daniel modestement, pour ne pas paraître beaucoup plus renseigné que M. Voreau sur ce détail de son état civil. « Attendez donc, » dit M. Voreau. « C'est moi qui confonds, oui, c'est moi, » concède-t-il avec bonne grâce. « C'est bien votre papa qui vient de s'installer rue Lafayette, après avoir été longtemps rue Dumel. »« Exactement, » dit Daniel, enchanté, et qui paraît admirer la perspicacité de M. Voreau. « Voilà 35 ans que je connais votre père. »« Il vous connaît bien aussi, » dit Daniel. « C'est un travailleur et un homme vraiment intelligent, » dit M. Voreau, qui semble à cet instant étendre sa bienveillance à toute une classe de négociants moins élégants que lui-même. « Est-ce que vous êtes dans ces affaires ?»« Oui, » dit Daniel, « mais je prépare en même temps mon doctorat. » Il y avait un instant qu'il cherchait le joint pour glisser ce renseignement. « Ah, vous faites votre droit !» dit M. Voreau. « C'est une bonne chose. » « Je viens de terminer ma licence, » dit Daniel, qui préjuge chez M. Voreau un certain dédain des professions libérales et s'empresse d'ajouter « Mais je n'ai pas l'intention de faire ma carrière d'avocat. »«
Pourquoi ça ? » dit M. Voreau. « C'est un beau métier
et je suis sûre que le papa serait content de vous voir réussir là-dedans. » Puis, reprenant son journal plié en quatre, il s'arc-bouta solidement dans son coin pour en continuer la lecture. Daniel, qui n'avait pas de journal, prit dans la poche intérieure de son veston des cartes et des lettres, entre lesquelles il fit mine de chercher un papier de quelque importance. Il remit ensuite ses papiers dans sa poche, avec un geste discret qui semblait dire « À demain, les affaires sérieuses !» Puis, passant son bras dans l'appui-bras qui pendait à la portière, il regarda le paysage d'un regard pas trop intéressé, du regard d'un homme qui ne méprise pas évidemment la nature, mais qui a d'autres choses à faire que de la contempler. De temps en temps, M. Voreau changeait le pliage de son quotidien, et cette opération méthodique paraissait aussi essentielle, pour le moins, que la lecture de cette feuille. La première page achevée, il ouvrit le journal tout grand devant lui, en faisant avec ses lèvres un bruit de tambour voilé et de vagues instruments guerriers, que justifiait mal l'examen du bulletin des Halles. Sa lecture terminée, il regarda le paysage. Daniel comprit que c'était son tour de distraire M. Voreau et se décida à entamer la conversation. Cependant, il hésitait entre trois amorçages. 1. Les wagons neufs sont tout de même bien mieux suspendus que les anciens. 2. Ils essayent maintenant sur l'Orléans une locomotive qui fait 120 à l'heure. 3. Est-ce que vous allez depuis longtemps à Bernainvilliers ? Mais M. Voreau avait fermé les yeux. Il les rouvrit quelques instants après pour un regard plaintif que son intelligence, sur le point de succomber contre le sommeil, jetait à toute la nature ainsi qu'un cerf expirant. Daniel mit un certain orgueil à faire celui qui ne dort pas et qui redouble de vigilance pour surveiller le défilé des poteaux télégraphiques. On passa devant un passage à niveau où attendaient deux bœufs, nés pour faire antichambre. Puis le train, après une sorte de crachement sauvage, s'arrêta dans une petite gare où cette entrée bruyante ne produisit pas la moindre sensation. Seul, auprès du dernier wagon, un employé du train et un employé de la gare échangèrent des présents d'amitié. L'homme d'équipe remit un sac et une bourriche, et l'homme du train lui passa en retour une petite voiture d'enfant. Monsieur Voreau dormait toujours. Daniel l'examina. C'était un homme bien mis. Son veston et son pantalon, de la couleur d'un tapis paillasson, étaient d'une étoffe sobre et particulière. Il avait mis un gilet blanc et des guêtres blanches. Le bout de ses souliers était presque carré, et Daniel, considérant ses propres bottines, maudit l'abjection de Chaffleur, cordonnier rue d'Hauteville, qui s'attardait encore au bout pointu. À une secousse du wagon, M. Voreau ouvrit les yeux. Un bâillement de lion à jeun creusa un trou énorme dans la touffe grise de sa moustache et de sa barbe. Il regarda Daniel avec des yeux sévères, bâilla encore et dit « J'ai bien dormi. Eh, mais nous arrivons » ajouta-t-il en se penchant à la portière. Le train passa sous un pont et entra dans la gare de Bernainvilliers. C'était une villégiature assez courue, et bien que la saison fût à ses débuts, une dizaine de personnes descendirent du train. Mais Daniel avait éprouvé une vive émotion. Ses yeux avaient battu. De l'autre côté de la barrière, il avait aperçu Berthe Voreau. La jeune fille était coiffée d'un chapeau de paille et vêtue d'une robe claire que Daniel ne détailla pas. Le train était allé assez loin, jusqu'à une potence où la locomotive devait faire de l'eau. En revenant à la sortie des voyageurs, Daniel pensait à l'apparition rapide de Berthe, et pour la première fois depuis les révélations, se sentit jaloux d'André Bardot. Il résolut de tirer l'affaire au clair, de savoir où ça en était, et, jusqu'à plus ample informé, de garder avec la jeune fille un ton très froid. Et il ne jouit pas, comme il l'aurait pu, de son clair sourire accueillant. Elle lui tendit la main et embrassa M. Voreau dans sa barbe imposante. Daniel s'étonna de cette familiarité entre deux êtres si loin de lui. Il les envia tous les deux. M. Voreau d'être embrassé par Berthe, et Berthe de si bien connaître M. Voreau. De l'autre côté de la route, une petite voiture à deux roues attendait, attelée d'un poney, à qui on avait mis un petit bonnet d'âne, peut-être simplement pour le préserver des mouches. Pendant que Berthe conférait avec son père et lui demandait s'il avait rapporté des fruits pour le dîner, Daniel, d'un air capable, s'avança près du cheval qui l'effleura d'une caresse au naseau. Mais le petit cheval lui mordit fortement le bout du doigt. Berthe Voreau monta sur le siège avec son père. Daniel et le groom s'installèrent sur le siège de derrière, du dos à dos. Daniel était bien résolu à ne pas parler au groom. Cependant, en considérant son doigt mordu, il remarqua sous l'ongle une tache bleue. Désireux d'être rassuré, il dit au groom avec détachement « Je crois que votre sacré petit cheval m'a mordu. » « C'est qu'il est traître, » dit le groom. « Montrez voir. » Daniel montra son doigt. « C'est rien de ça, » dit le groom. Chapitre 9. Le double aveu. Monsieur Voreau, largement installé sur le siège, conduisait le petit cheval avec une main de fer, gantée de peau de chien. Berthe, assise à son côté, tenait haut son ombrelle, tandis que de sa main gauche, elle maintenait le bord léger d'un vaste chapeau que la brise menaçait un peu. Daniel, placé avec le groom sur le siège de derrière, se trouvait dos à dos avec M. Voreau et s'était assis sur le côté pour apercevoir la jeune fille. Comme la route montait assez raide, M. Voreau mit son cheval au pas et dit au groom sans tourner la tête « Il saigne toujours près du garrot. » « Es-tu allé chez le maréchal ?»« J'y suis été, » dit le groom. « Il a dit comme ça que c'était un bouton de chaleur et qu'il va falloir y mettre soir et matin des compresses d'eau blanche. » Daniel prit un air extrêmement intéressé. Il chercha des choses nouvelles, ou même banales, à dire sur les compresses d'eau blanche et les boutons de chaleur. Mais il n'en trouva point. La voiture repartait à une allure plus vive. Le groom, maintenant, taquinait ses dents de sagesse, les doigts enfoncés dans la bouche à une profondeur extraordinaire. Enfin, il se croisa les bras, inclina la tête sur le côté et regarda avec accablement la route qui filait sous eux. La grande préoccupation de Daniel était qu'il faudrait, à l'arrivée, sauter à terre assez vite pour aider Mademoiselle Voreau à descendre. Le moment fatal approchait. La voiture, après avoir longé un grand mur, parvint jusqu'à une grille, et Daniel aperçut sur un vaste perron, devant une vague maison blanche, des personnes qui se levèrent à l'approche des arrivants. M. Voreau, avec plus de maîtrise que jamais, guida le petit cheval autour d'une pelouse et arrêta l'attelage devant le perron. Daniel sauta comme par miracle à bas de la voiture, vint tendre avec grâce sa main droite à Berthe Voreau et lui paralysa solidement la main gauche. La jeune fille faillit se tordre le pied, se retint à la manche de Daniel qui dit précipitamment « Pardon, pardon !» laissa tomber sa canne et toussa avec énergie pour tout remettre en ordre. Cependant, Madame Voreau, avec ses cheveux d'argent doré et son face à main d'écailles blondes, s'avançait à petits pas vers Daniel, à qui elle offrait un regard sucré et sa main délicate. Le jeune homme fut conduit ensuite au haut du perron et présenté à une grand-mère en soie noire que l'on avait installée dans un grand fauteuil d'osier avec tous ses bijoux. Elle était couverte de chaînes d'or, comme une vieille dame en esclavage. Daniel, avec respect, dut toucher sa main, que sillonnait de grosses veines de vieillard. Il y avait là des personnes que Daniel connaissait un peu. Louise Loison, une jeune fille savante, pourvu d'un lorgnon et de nombreux cheveux noirs, et qui portait, en supplément, sur la joue, un grain de beauté fourni d'une touffe de poils. Modeste échantillon de ce qu'aurait pu être sa barbe, si la barbe eût figuré parmi les attributs de son sexe. Cette jeune fille regardait Daniel avec insistance, mais trop fixement. Daniel fut d'ailleurs heureux qu'on l'eût invité, car elle lui paraissait devoir goûter l'intelligence pure. Il vit aussi un grand jeune homme, blond, de 17 ans, qui, avec sa tête en avant, ses bras ballants et sa bouche ouverte, avait toujours l'air d'être dans un rassemblement. Ses parents habitaient le pays. On l'appelait le numéro 2, parce qu'il était le second d'une famille de 6 garçons. On ne voyait jamais ses frères qui poursuivaient leurs études. Quant à lui, on ne lui connaissait aucune occupation. D'une voix rauque, il proposa une partie de croquet. Madame Voreau était montée au premier étage avec Monsieur Voreau. Berthe et son amie, dans une allée, entamaient d'urgentes et longues confidences. Le numéro 2 avait emmené en corvée jusqu'à un terrain plat un petit garçon de 10 ans et une petite fille du même âge. Les avait armés de maillets et leur faisait planter des arceaux. Daniel resta sur le perron avec la vieille dame aux bijoux. Elle n'avait plus qu'une quantité négligeable de dents, et l'on craignait à chaque instant, quand elle parlait, de voir ses joues se prendre dans ses gencives. Elle n'en parla pas moins au jeune homme avec abondance, lui lança au visage force compliments accompagnés de fines gouttelettes, et s'étonna de le retrouver si grand et si beau garçon. Il lui semblait que c'était la veille qu'elle l'avait vu arriver aux Champs-Élysées, en robe blanche et en ceinture bleue avec sa jolie maman. Daniel trouva, en somme, cette vieille dame très agréable. Et quand il rejoignit les jeunes filles pour aller au croquet, il crut émettre une opinion conforme à l'avis général en affirmant à Berthe que sa grand-mère était tout à fait charmante. Mais les deux jeunes filles se mirent à rire et Louise Loison, sans que Berthe parût la contredire, affirma que la vieille dame était très méchante et vraiment rasoir. Daniel fit « Oui, oui. Enfin, elle a une mémoire extraordinaire. » À quoi Louise répondit qu'elle inventait de vieux souvenirs, tout ce qui lui passait par la tête. On commença la partie de croquet. Daniel n'était pas plus maladroit qu'un autre à ce jeu. Il croqua des boules d'assez loin et passa très bien la sonnette, c'est-à-dire le double arceau du milieu, d'ailleurs dépourvu de sonnette. Mais il provoqua de vives récriminations chez les deux enfants de 10 ans par la façon déloyale dont il favorisa la boule orange, celle de Mademoiselle Voreau, qu'il envoyait toujours en position devant l'arceau qu'elle avait à traverser. Cependant, il s'impatientait. Ses affaires n'avançaient pas. Il ne trouvait pas, dans le voisinage de Berthe, la félicité qu'il avait tant attendue pendant 4 jours. La partie de croquet terminée, comme il était à peine 5h30, Mademoiselle Loison proposa une promenade dans le pays. Ils sortirent donc du jardin et s'en allèrent tous les 6 sur une route neuve bordée de petits arbres secs et de tas de cailloux. Et l'on passait de temps en temps devant une petite maison fraîchement bâtie, limitée d'un côté par un mur blanc sans fenêtre, la petite tranche de propriété à laquelle de vieux employés avaient droit à la fin de leur vie. C'est dans ce jardin sans verdure que l'été leur jetait un soleil aveuglant, en compensation de l'ombre excessive où s'était écoulée leur jeunesse. Daniel, un peu agacé, et qui ne trouvait rien à dire à Berthe, préféra rester en arrière avec Louise Loison, qui lui parlait littérature. Et pour répondre au démon intérieur, qui lui reprochait de perdre son temps et de ne pas consacrer à sa bien-aimée les rares instants qu'il passait auprès d'elle, il invoquait ce grand principe, le seul qui lui servait dans ce qu'il appelait ses tactiques avec les dames. C'est qu'il était bon de les dépiter en les négligeant un peu. afin de se les attacher davantage. « Vous devez être un passionné !» lui dit Louise Loison à propos de Baudelaire. « Oui !» dit Daniel. « Vous êtes amoureux ?»«
Oui !»
Il voyait à 20 pas devant lui les lourds cheveux blonds et la robe de linon mauve de Mademoiselle Vaureau, à côté du numéro 2, qui faisait des pas immenses et s'amusait à jeter des cailloux aux enfants.
« Je sais !» dit Louise Loison en fixant Daniel.
« De qui vous êtes amoureux ?»«
C'est une jeune fille blonde. »
« C'est vrai !» dit Daniel, toujours assez hardi avec les tiers. Il y eut un silence, puis Louise ajouta « Cette personne vous aime aussi. » Daniel ne dit rien et regarda droit devant lui sans rien voir. Louise Loison courut à Berthe et lui parla à voix basse. Et Daniel, qui devinait cette confidence, vit que Berthe ne tournait pas la tête et ne disait rien. Louise Loison cria qu'il fallait rentrer pour dîner. Elle fit arrêter le groupe pour rebrousser chemin. Daniel rejoignit Berthe. Elle rougit et leurs regards s'évitèrent. Louise, pour les laisser ensemble, prit les devants avec l'impassible numéro 2 et les enfants. Elle les fit danser et chanter et dansa de joie avec eux. Mais Daniel et Berthe cheminaient côte à côte sans se regarder et ne dirent rien jusqu'à la maison. En arrivant à la grille, Daniel vit que la table était mise dans le jardin. Les deux jeunes filles montèrent à la chambre de Berthe pour retirer leurs chapeaux. Les enfants se dispersèrent. Daniel, resté seul, fut pris d'une crise sourde de désespoir parce qu'il n'avait pas parlé à Berthe. « J'aurais dû lui dire n'importe quoi, que je l'aimais, que j'étais heureux. Mais je suis un misérable, un misérable, un misérable. J'ai abîmé tout mon bonheur. » Et se parlant ainsi à voix presque haute, il serrait les poings et se griffait les paumes avec les ongles, qu'il portait d'ailleurs assez court. Chapitre 10. La fête commence. « Voilà comme je suis, » répétait-il en geignant presque. « Il m'arrive un bonheur inespéré, Berthe m'aime, on lui dit que je l'aime aussi, on nous laisse ensemble, nous marchons côte à côte pendant 10 minutes et je ne trouve rien à lui dire. » Il était seul dans le jardin où la table était déjà mise. Monsieur Vaureau, Madame Vaureau et la grand-mère n'étaient pas encore descendus dîner. Le numéro 2, avec toute la gravité précoce que donne à un jeune homme de 17 ans une vie passée dans l'oisiveté, s'était installé devant le grillage des poules et leur envoyait des petits cailloux sur le dos. Louise et Berthe étaient montées au premier pour enlever leurs chapeaux. Daniel regarda la maison où il n'était encore jamais entré, la maison où habitait sa bien-aimée, où elle respirait, s'endormait le soir et s'éveillait le matin comme tout le monde. Il s'étonnait et se sentait ravi de retrouver chez cet être exceptionnel des habitudes et des gestes humains. Alors il se désespéra encore d'avoir été si bête tout à l'heure. Mais au fond, était-il sûr lui-même que ce désespoir fût sérieux? Ne se taquinait-il pas un peu pour mieux supporter sa grande joie? Ne payait-il pas ainsi au destin une petite prime d'assurance pour protéger son bonheur? Monsieur Henri, voulez-vous vous laver les mains? C'était Louise Loison qui l'appelait de la fenêtre du premier. Il regarda ses mains avec hésitation. Elle répéta : Venez! Il entra par une porte du perron, traversa une antichambre où étaient suspendus des chapeaux de paille rustiques et des casques en toile dont on ne se servait jamais, mais qui attestaient au moins chez les hôtes des velléités d'excursion. Puis il monta au premier étage. L'ami de Berthe attendait sur le seuil d'un cabinet de toilette assez vaste dont la fenêtre donnait sur le jardin. Elle regarda Daniel avec des yeux souriants derrière son binocle. « Vous n'êtes pas content ? » Aussi, dit-il, il faudra trouver un prétexte pour revenir demain.
Vos parents, dit-elle rapidement, vous auront soi-disant chargé de louer une maison dans le pays. D'ailleurs, il faut absolument que vous veniez habiter près d'ici.
Berthe le veut. Je vais passer 6 semaines ici. Ce sera très bien.
Il se frottait les doigts très fortement avec la serviette éponge afin de ne pas tendre à Berthe, quand elle se présenterait, une main trop fraîche des ablutions récentes.
Berthe, dit Louise en entr'ouvrant une porte.
Qu'est-ce qu'elle fait donc dans sa chambre?
Venez, ma petite Berthe.
La porte s'ouvrit à peine un peu plus, et se glissant lentement dans l'entrebâillement, Berthe entra dans la chambre, comme une vision qui sort d'un mur. Sans regarder Daniel, elle lui tendit la main. Il lui prit le bout des doigts.
« Embrassez-la, » dit Louise Loison.
Il s'approcha d'elle et lui baisa la joue, sans bruit, comme on baise une étoffe sacrée. Très ému, il lui dit « Je vous aime », d'une voix sourde et rapide, pour se débarrasser d'une formalité. Il fallait descendre dîner. Ils regardèrent dans le jardin et virent la grand-mère déjà installée à table. Une bonne, debout auprès d'elle, arrogamment lui coupait du pain en tout petits morceaux. Monsieur Voreau, vêtu de molleton gris clair, se promenait de long en large. Daniel regarda Monsieur Voreau. Il lui parut toujours élégant, mais il l'étonna moins. Le baiser qu'il avait donné à Berthe l'avait rapproché de toute la famille Voreau. Seule, Madame Voreau conservait son prestige intellectuel, à cause de sa myopie et du livre, entamé d'un coupe-papier qu'elle avait toujours sur la table à ouvrage. Daniel se sentit plus aisé d'allure. Il avait désormais un emploi dans la maison. Il prit place à table entre Madame Voreau et sa fille. Monsieur Voreau se trouvait entre la vieille grand-mère et Louise Loison. Il plaisantait Louise, qui, disait-il, était amoureuse d'un prince russe. Daniel chercha un sourire suffisant pour satisfaire Monsieur Voreau et qui ne choqua pas l'impassibilité de Madame Voreau, que n'amusaient guère ses facéties. Le petit garçon de 10 ans et sa sœur jumelle s'étaient partagé le numéro 2 qu'ils encadraient jalousement au bout de la table. Un frère de Madame Voreau, qui devait être le père des 2 enfants, répondait laconiquement au nom d'Achille. Il s'appliquait à boire lentement, par petites gorgées réfléchies, pour ne pas boire trop froid. Daniel, qui s'observait pour garder une tenue irréprochable, fut un peu libéré de ce souci par l'attitude du numéro 2. Ce jeune vorace mangeait très vite et s'essuyait rarement la bouche, si bien que ses lèvres, après l'entrecôte, déposèrent sur les bords de son verre de menus fragments de persil, tandis que l'eau rougie laissait en retour une marque d'étiage sur sa moustache naissante. Le repas, en somme, se passa très bien. La vieille grand-mère ne fit aucune tentative de conférence sur la généalogie des personnes présentes, le travail intégral de ses maxillaires étant absorbé et au-delà, par la pénible opération de la mastication. Elle n'avait pas trop des entr'actes entre chaque plat pour rattraper les autres convives, et dut même laisser partir, non sans un regard de regret, des portions inachevées, afin de ne pas être laissée en arrière et de ne pas manquer le foie gras. Elle fut moins distancée pour la salade, dont elle se contenta de sucer les feuilles. Daniel était un peu impressionné par le maître d'hôtel. Chez lui, c'était une bonne qui faisait le service. Comme on lui enleva sa fourchette après le poisson, il crut qu'il en serait de même après chaque plat, et, l'entrecôte achevé, laissa sa fourchette sur son assiette. Mais il eut l'ennui de voir que Madame Voreau avait posé la sienne sur la nappe. Pour arriver à remettre sa fourchette sur la nappe, sans que ce geste fût remarqué, il dut le décomposer en plusieurs autres, dont chacun parut être machinal. Il commença donc par poser légèrement la main sur sa fourchette, puis la souleva doucement, comme s'il lui prenait fantaisie de jouer avec elle. Enfin, comme s'il eût été là de ce jeu, il la posa doucement à côté de son assiette. Au poulet sauté, une nouvelle inquiétude le saisit. Un esprit superficiel, fort des données de l'expérience précédente, eut simplement posé la fourchette sur la nappe. Mais n'était-ce pas marqué ainsi, de façon indiscrète, que l'on attendait un autre plat, alors que le poulet sauté pouvait être le dernier? Aussi mangea-t-il avec une lenteur extrême le morceau qu'il s'était choisi, afin d'avoir fini après Madame Voreau et de régler sa conduite sur la sienne. Au dessert, Daniel ne s'était pas encore décidé à dire, selon les instructions de Louise, que ses parents désiraient louer une villa à Bernainvilliers. Il osait à peine parler à Monsieur et Madame Voreau, et on voulait qu'il leur mentît déjà. Louise, regardant le jeune homme en face, lui dit brusquement « Alors, Monsieur Henri, vos parents ont l'intention de venir louer ici cet été ?»«
Mais ce serait une idée charmante !» dit Madame Voreau.
« Il faut les presser un peu !» dit Louise. « Et savez-vous ce que vous devriez faire ? Vous devriez revenir ces jours-ci dans le pays pour voir des maisons. Parce que si vous attendez tard dans la saison, vous ne trouverez plus rien de bien. Ne venez pas vendredi ni samedi, je dois aller à Paris. Tenez, une idée. Revenez demain, jeudi, nous vous aiderons à chercher. »
C'est ça, revenez demain, dit Berthe doucement pour ne pas se compromettre.
Revenez demain, dit avec malice Monsieur Voreau, puisque ça fait tant plaisir à Mademoiselle Loison.
Vous? Taisez-vous, vous êtes un méchant, dit Louise Loison.
Après dîner, elle proposa un petit tour sur la route. Mais M. Voreau, à la consternation d'une partie des assistants, prétendit se joindre au groupe pour achever sa digestion. La nuit tombait. Louise s'approcha de Daniel et lui dit à la dérobée « Soyez tranquille, on s'arrangera pour le laisser en route. » Et Berthe et moi, nous vous reconduirons à la gare. » Puis, comme elles montaient toutes deux mettre leur chapeau, elle dit à voix très basse « Monsieur Daniel, venez chercher votre chapeau et vos gants que vous avez laissés à la maison. » Daniel la suivit, un peu inquiet. Il était heureux qu'on l'aidât ainsi dans ses amours. Mais il trouvait qu'on l'aidait trop précipitamment et avec trop d'audace. Ils entrèrent tous les trois dans le cabinet de toilette où il faisait sombre. Comme Berthe se coiffait devant la glace, Louise entendit M. Voreau qui montait l'escalier pour chercher son pardessus.
« Embrassez-la vite !» dit-elle à Daniel.
Daniel, dans la demi-obscurité et pressé par le danger, appuya sur la joue de Berthe un baiser rapide. Il n'eut pas le temps d'en éprouver aucune émotion. Mais c'était en somme un baiser de plus. Il y goûta au moins une satisfaction honorifique. Chapitre 11. Le retour. Louise Loison prit le bras de Daniel pour détourner les soupçons. Elle avait ainsi des accès de prudence, parmi des imprudences folles. Monsieur Voreau marchait à gauche de Daniel et s'appuyait sur le bras de sa fille. Tous quatre gagnèrent ainsi, sur le même rang, la grande route, où le clair de lune méticuleux alignait les ombres des arbres, en raies obliques et sensiblement parallèles. Une horloge sonna 9 coups, si lent et si grave que chacun des promeneurs, en les comptant dans son fort intérieur, fut un peu déçu qu'il n'y en eût pas 12. Daniel, comme personne ne parlait, se dévoua et sortit bravement du silence. Il lisait tous les matins les journaux de sport et savait que M. Voreau suivait les courses. Il demanda au banquier si la réunion du dimanche avait été intéressante. La journée se trouvait avoir été mauvaise pour M. Voreau, qui avait passé à travers des 6 courses. Il émit néanmoins sur la valeur des chevaux de l'année une opinion assez optimiste. Daniel l'écoutait avec attention. Monsieur Voreau s'arrêta un instant pour endosser le pardessus qu'il avait pris sur son bras. Louise Loison pinça le bras de Daniel. « Croyez-vous qu'il est raseur et assommant avec ses courses ? » dit-elle tout bas. Daniel hésita et répondit « Oui, un peu. » Louise, à chaque instant, lui pinçait ainsi le bras pour souligner certaines paroles du banquier. Ça ne se voyait pas et Daniel n'en était pas trop gêné. Mais elle coupait parfois brutalement la parole à M. Voreau pour adresser une question au jeune homme sur n'importe quel sujet. Daniel lui répondait alors brièvement et se tournait vers M. Voreau en redoublant l'expression d'intérêt que marquait son visage. Fallait-il être mal élevé avec ce monsieur parce qu'on faisait la cour à sa fille ? Louise Loison n'avait pas de ces scrupules. Semblable à beaucoup de dames, elle n'usait de tact que pour les êtres aimés. Elle traitait les gêneurs sans merci, sans la moindre nuance d'égard, et joignait férocement l'impolitesse à la trahison. Il est vrai que les dames n'ont pas à rendre compte de leur grossièreté. Et, qu'en ces occasions, elles peuvent mieux que nous se passer de délicatesse. Que cette condescendance eût ou non à son origine un sentiment de crainte, Daniel ne maudissait pas la présence du banquier. Il souhaitait même que la conversation se prolongeât et que M. Voreau les accompagnât jusqu'à la gare, d'autant qu'il désirait ne plus se trouver seul ce jour-là avec Louise Loison et sa bien-aimée. Il n'avait rien à dire à Berthe. Il pourrait bien l'embrasser encore une fois, mais quoi ? Toujours sur la joue ? On l'accuserait sans doute de se répéter et de manquer d'audace. D'autre part, entre le baiser commun sur la joue et le baiser sur les lèvres, il y avait évidemment une étape trop importante qui ne pouvait être franchie aussi rapidement. On repassa devant la maison pour que Daniel fît ses adieux. Louise profita de ce qu'on se retrouvait en présence de Madame Voreau pour rappeler à Daniel qu'il devait revenir le lendemain. Monsieur Voreau proposa de les accompagner à la gare. « Nous irons bien toutes seules, » dit Louise. « Non, » dit Madame Voreau. « Pour aller, ce sera bien, puisque Monsieur Daniel sera avec vous. Mais je ne veux pas que vous reveniez toutes seules sur la grande route. » Daniel s'était mis à l'écart. Il n'osait pas ne pas insister pour que Monsieur Voreau se joignît à eux, et n'osait pas, en insistant, s'attirer les reproches de Louise Loison. Comme ils arrivaient au bas de la petite montée tournante qui conduisait aux côtés du départ, ils entendirent un coup de sifflet. « Ça doit être 9h52. Voici votre train, » dit Monsieur Voreau. « Il faut vous dépêcher. » Daniel s'apprêta à prendre rapidement congé, ravi que la tendre formalité des adieux fût écourtée. Il avait hâte de quitter ces gens, pour qui il dépensait tant d'amour, tant d'amitié et tant d'estime. Pendant que M. Voreau attendait au bas de la montée, les deux jeunes filles accompagnèrent Daniel en courant jusqu'à la gare, où un cadran lumineux leur apprit impassiblement qu'il était 10h20. M. Voreau s'était trompé. Il y avait encore un bon quart d'heure à attendre. « Il faudrait peut-être que j'aille prévenir monsieur votre père, » dit Daniel à Berthe. « S'il ne vous voit pas redescendre tout de suite, il ne va pas savoir ce que cela veut dire. »« Laissez donc, » dit Louise. « Est-ce qu'il n'est pas bien en bas ? S'il s'impatiente, il saura nous retrouver. » Il y avait dans la salle d'attente un voyageur entouré de sacs et de valises et dont la présence obligeait les amoureux à une certaine tenue. Ils s'assirent avec Louise sur le solide canapé de velours vert qui formait avec quatre fauteuils l'austère ameublement de la salle des premières. Louise dicta à Daniel ses instructions pour le lendemain. « Vous arriverez à 3h. Nous vous attendrons à la gare. Vous ne viendrez pas tout de suite à la maison parce qu'on trouverait moyen de nous coller un chaperon. Nous irons tous les trois visiter des maisons à louer.
Tâchez d'ici demain de décider vos parents à venir habiter le pays. » Daniel avait pris la main de Berthe. C'était la seule marque de tendresse que lui permettait la présence du voyageur importun. Mais il goûtait assez ces manifestations contenues. Il regarda Berthe et lui demanda « M'aimez-vous ?» Elle ne baissa pas les yeux et lui répondit « Je vous aime. » Ce fut à partir de ce jour-là le mot d'ordre qu'ils échangèrent à chacune de leurs rencontres, ainsi que deux factionnaires bien stylés. Cependant, 9h52 entrait en gare. Daniel, après avoir secoué énergiquement la main de Louise et serré la main de Berthe d'une longue étreinte, monta dans un compartiment vide. Quand le train se mit en marche, il tendit son bras hors de la portière comme un signe sémaphorique. Et bien que la nuit fût sombre, il agita son chapeau pendant plus de 300 mètres, par mesure de précaution. Il s'assit ensuite dans un coin du compartiment. La situation avait changé depuis l'aller. Il regarda fièrement le coin d'en face, où aurait pu être M. Voreau. Daniel avait passé brusquement de la catégorie des déshérités d'amour dans le clan des privilégiés qui plaisent aux dames. L'humanité, pour lui, se partageait strictement en ces deux catégories. Il n'eût pas admis que la faveur d'être distingué par une belle pût être le prix d'une honnête application. C'était un don du ciel. On était aimé ou l'on n'était pas aimé. Il était aimé. Il situait généralement ses rêves de gloire à la gare du Vésinet, l'été, à l'arrivée du train de 7 heures. C'est là que les dames et les jeunes filles en villégiature venaient attendre, qui un père dans les rubans, qui un frère dans les blés, qui un époux dans les pierres précieuses. Daniel avait toujours passé inaperçu dans cette foule. Il se voyait maintenant traversant les groupes, avec le prestige de l'homme aimé, un monocle à l'œil et une cigarette au doigt. Il ne portait pas de monocle et ne fumait pas. Il méprisait avec ses amis les poseurs qui se collent un verre dans l'œil et trouvait que c'était élégant de ne pas fumer. Mais la cigarette et le monocle n'en demeuraient pas moins des attributs indispensables pour la belle attitude de maîtrise et de désinvolture qu'il souhaitait dans la vie. À l'arrivée du train, il se demanda où il irait passer la soirée. Il lui fallait une distraction qui lui changeât les idées. Il était là de son bonheur, comme d'un bel habit neuf qu'il est si agréable de remplacer, une fois l'effet produit, par l'habit précédent, fatigué et commode, et dont les tares et les plis ne vous font plus horreur, du moment qu'ils ne vous sont plus imposés par la nécessité. Sa première idée fut d'aller retrouver son ami Julius et de lui raconter sa journée. Mais il ne le rencontra ni à la brasserie du Faubourg Montmartre, où il allait tous les soirs, ni au Moulin Rouge. Il ne pouvait vraiment pas aller se coucher aussi simplement après une journée si importante. C'est alors qu'après avoir donné à son cocher l'indication d'une rue, il lui dit un numéro qui n'était pas exactement celui où il voulait aller. Quand la voiture s'arrêta, il demeura un instant sur le trottoir et feignit de chercher des lettres dans ses poches pour laisser au cocher le temps de s'éloigner. Puis il remonta à pied jusqu'à une maison dont le rez-de-chaussée était occupé par une boutique de teinturerie et par l'entrée d'un couloir obscur. Daniel accéléra le pas et tourna brusquement dans le couloir. Comme il montait l'escalier, il aperçut à une dizaine de marches au-dessus de lui un soldat du génie qui sonnait timidement à une porte où Daniel avait déjà lu plusieurs fois cette carte de visite. Madame Léontine, modiste. Daniel attendit que la porte se fût ouverte et refermée sur le soldat du génie. Puis, un instant après, il alla sonner à son tour. Pendant les 10 minutes qu'il passa dans cette maison, Daniel ne prononça pas un mot. Il était parfaitement capable, dans des réunions d'amis,
de s'exprimer avec abondance sur des sujets littéraires, philosophiques ou obscènes. C'est qu'il y avait en lui deux personnages distincts, le monsieur qui parlait et le faible jeune homme que l'engrenage des circonstances entraînait à agir. Faute d'avoir reçu une éducation commune, ces deux personnages ne travaillaient jamais ensemble. Le monsieur qui parlait était un brillant soliste. Il tenait à dire des choses sincères et définitives. Mais il était tout à fait nul comme accompagnateur et ne savait pas plaquer des accords sans prétention sur des sujets inopinés. Étendu sur un divan de reps, Daniel regardait aller et venir dans la chambre une personne assez corpulente que, sans l'extrême simplicité de son costume, on eût prise pour une diligente femme de ménage, tant elle mettait de sûreté et de promptitude à remuer des brocs et des seaux. « Ce n'est pas tout ça, » pensait le jeune homme. « Il va falloir retourner demain à Bernainvilliers. Voilà 2 jours que je ne suis pas allé au magasin de papa. Mais comment vais-je décider mes parents à aller louer là-bas ?» Chapitre 12. En famille. En se réveillant le lendemain dans sa chambre, Daniel ne se rappela pas tout de suite s'il était heureux ou malheureux. 3 petits ennuis, 3 efforts à faire, l'attristaient. Il aurait à demander de l'argent à sa mère, puis à couper au magasin sans se faire attraper par son père, puis à trouver un moyen de décider ses parents à louer à Bernainvilliers. Tous ces tracas, décemment, ne devaient pas contrebalancer sa grande joie d'être aimé de Berthe. Il se répéta avec énergie qu'il fallait être heureux. Il lui restait sur sa semaine 24 francs. Il avait besoin de s'acheter une chemise neuve. Celle qu'il avait portée la veille n'était pas assez fraîche, et celle de l'armoire avait toutes des manchettes et cols éraillées. Madame Henri y veillait avec vigilance. Son désespoir était que la blanchisseuse les abîmât aussi vite. C'était à croire que les blanchisseuses étaient de connivence avec les chemisiers. Madame Henri, pour remédier à ce désastre, espaçait le plus qu'elle pouvait les commandes de chemises neuves. La sollicitude qu'elle avait pour son fils n'allait pas toujours jusqu'à la coquetterie maternelle. Et son désir de le voir bien tenu ne l'emportait pas sur un souci bien naturel de faire durer le linge le plus longtemps possible. La chemise coûterait bien 10 francs. Le voyage en coûtait 7. Daniel ne pouvait pas s'en aller à Bernainvilliers avec 7 francs seulement. Il résolut de demander 20 francs à sa mère. Puis, après réflexion, 50 francs. Il se dit enfin qu'il faudrait au moins 100 francs afin de parer à l'imprévu. Comme il allait passer une bonne journée, il sentait le besoin, en bon sybarite, d'être complètement tranquille et d'avoir sur soi de quoi faire face aux éventualités les plus chimériques. Mais 100 francs, c'était une telle somme qu'il n'eut pas le courage de la demander et qu'il ne demanda rien du tout. Il préféra aller acheter une chemise à crédit chez son chemisier. Malheureusement, M. Malus, en fait de chemise toute faite, n'avait que de la chemise sans col. Daniel aurait voulu une chemise avec un col droit et très haut. « Attendez, » dit M. Malus, « attendez donc, j'ai là quelque chose qui serait peut-être susceptible de faire votre affaire. Une chemise qui m'a été laissée pour compte parce qu'elle était trop étroite. » Daniel passa dans l'arrière-boutique pour essayer cette chemise. Le col était décidément trop juste. Monsieur Malus parvint à le boutonner, mais Daniel suffoquait. « Attendez donc, » dit encore le chemisier, « j'ai là quelque chose d'autre. Seulement, c'est un col rabattu. Voici, par le fait, la saison chaude. Vous n'aurez donc pas à vous en repentir. Et c'est une chemise toute en toile, une chemise de 18 francs, que je vous laisserai à 10 francs. » Il alla chercher une chemise qui, certainement, avait été faite pour un homme de 2 mètres de haut. Daniel était obligé de remuer le cou comme une autruche, afin de prendre successivement contact avec tous les points de la circonférence du col. La jupe lui tombait au talon. Malgré un pliage minutieux, c'est à peine s'il put fermer son pantalon sur cet amas de linge. On lui fit un point à chaque manche pour les raccourcir, et il fallut de grands efforts pour faire passer ses manchettes dans les manches de la jaquette. Le poignet de Daniel jouait là-dedans, comme dans les manchettes classiques de l'amant d'Amanda. On lui voyait le bras jusqu'au coude. Il profita de ce qu'il était chez le chemisier pour acheter une garniture en nacre pour son devant de chemise. Entre autres modifications qu'avait produites dans son âme l'aveu d'amour de Mademoiselle Voreau, figurait désormais le besoin impérieux d'avoir toutes les boutonnières de son plastron garnies de boutons.